Chapitre 3. Le curé de Monteignac. Les prêtres et les dévots ont une tendance à observer, en fait d'intérêt, les rigueurs légales. Est-ce pauvreté? Est-ce un effet de l'égoïsme auquel les condamne leur isolement et qui favorise en eux la pente de l'homme à l'avarice? Est-ce un calcul de la parcimonie commandée par l'exercice de la charité? Chaque caractère offre une explication différente. Caché souvent sous une bonhomie gracieuse, souvent aussi sans détour, cette difficulté de fouiller à sa poche se trahit surtout en voyage. Gabriel de Rastignac, le plus joli jeune homme que depuis longtemps les hôtels eussent vu s'incliner sous leur tabernacle, ne donnait que 30 sous de pourboire au postillon. Il allait donc lentement. Les postillons mènent fort respectueusement les évêques, qui ne font que doubler le salaire accordé par l'ordonnance. Mais ils ne causent aucun dommage à la voiture épiscopale, de peur d'encourir quelque disgrâce. L'abbé Gabriel, qui voyageait seul pour la première fois, disait d'une voix douce à chaque relais « Allez donc plus vite, messieurs les postillons !»« Nous ne jouons du fouet, lui répondit un vieux postillon, que si les voyageurs jouent du pouce !» Le jeune abbé s'enfonça dans le coin de la voiture sans pouvoir s'expliquer cette réponse. Pour se distraire, il étudia le pays qu'il traversait et fit à pied plusieurs des côtes sur lesquelles serpente la route de Bordeaux à Lyon. À 5 lieues au-delà de Limoges, après les gracieux versants de la Vienne et les jolies prairies en pente du Limousin, qui rappellent la Suisse en quelques endroits, et particulièrement à Saint-Léonard, le pays prend un aspect triste et mélancolique. Il se trouve alors de vastes plaines incultes, des steppes sans herbes ni chevaux, mais bordées à l'horizon par les hauteurs de la Corrèze. Ces montagnes n'offrent aux yeux du voyageur ni l'élévation à pied droit des Alpes et leur sublime déchirure, ni les gorges chaudes et les cimes désolées de l'Apennin, ni le grandiose des Pyrénées. Leurs ondulations, dues au mouvement des eaux, accusent l'apaisement de la grande catastrophe, et le calme avec lequel les masses fluides se sont retirées. Cette physionomie, commune à la plupart des mouvements de terrain en France, a peut-être contribué autant que le climat à lui mériter le nom de douce, que l'Europe lui a confirmé. Si cette plate transition entre les paysages du Limousin, ceux de la Marche et ceux de l'Auvergne, présente aux penseurs et aux poètes qui passent les images de l'infini, l'effroi de quelques âmes, si elle pousse à la rêverie la femme qui s'ennuie en voiture, pour l'habitant, cette nature est âpre, sauvage et sans ressources. Le sol de ces grandes plaines grises est ingrat. Le voisinage d'une capitale pourrait seul y renouveler le miracle qui s'est opéré dans l'abri pendant les 2 derniers siècles. Mais là, manquent ces grandes résidences qui parfois vivifient ces déserts, où l'agronome voit des lacunes, où la civilisation gémit, où le touriste ne trouve ni auberge ni ce qui le charme, le pittoresque. Les esprits élevés ne haïssent pas ces landes, ombre nécessaire dans le vaste tableau de la nature. Récemment, Cooper, ce talent si mélancolique, a magnifiquement développé la poésie de ses solitudes dans la prairie. Ces espaces oubliés par la génération botanique et que couvrent d'infertiles débris minéraux, des cailloux roulés, des terres mortes, sont des défis portés à la civilisation. La France doit accepter la solution de ces difficultés, comme les Anglais celles offertes par l'Écosse, où leur patiente, leur héroïque agriculture a changé les plus arides bruyères en fermes productives. Laissées à leur sauvage et primitif état, ces jachères sociales engendrent le découragement, la paresse, la faiblesse par défaut de nourriture et le crime quand les besoins parlent trop haut. Ce peu de mots est l'histoire ancienne de Monteignac. Que faire dans une vaste friche négligée par l'administration, abandonnée par la noblesse, maudite par l'industrie? La guerre à la société qui méconnaît ses devoirs. Aussi les habitants de Montaignac subsistaient-ils autrefois par le vol et par l'assassinat, comme jadis les Écossais des hautes terres. À l'aspect du pays, un penseur conçoit bien comment, 20 ans auparavant, les habitants de ce village étaient en guerre avec la société. Ce grand plateau, taillé d'un côté par la vallée de la Vienne, de l'autre par les jolis vallons de la Marche, puis de l'Auvergne, et barré par les monts corréziens, ressemble, agriculture à part, au plateau de la Beauce, que sépare le bassin de la Loire du bassin de la Seine, à ceux de la Touraine et du Berry, à tant d'autres qui sont comme des facettes à la surface de la France, et assez nombreuses pour occuper les médiations des plus grands administrateurs. Il est inouï qu'on se plaigne de l'ascension constante des masses populaires vers les hauteurs sociales, et qu'un gouvernement n'y trouve pas de remède, dans un pays où la statistique accuse plusieurs millions d'hectares en jachère, dont certaines parties offrent, comme en Berry, 7 ou 8 pieds d'humus. Beaucoup de ces terrains qui nourriraient des villages entiers, qui produiraient immensément, appartiennent à des communes rétives, lesquelles refusent de les vendre aux spéculateurs, pour conserver le droit d'y faire paître 100 de vaches. Sur tous ces terrains sans destination est écrit le mot « incapacité ». Toute terre a quelque fertilité spéciale. Ce n'est ni les bras ni les volontés qui manquent, mais la conscience et le talent administratif. En France, jusqu'à présent, ces plateaux ont été sacrifiés aux vallées. Le gouvernement a donné ses secours, apporté ses soins, là où les intérêts se protégeaient d'eux-mêmes. La plupart de ces malheureuses solitudes manquent d'eau, premier principe de toute production. Les brouillards, qui pouvaient féconder ces terres grises et mortes en y déchargeant leurs oxydes, les rasent rapidement, emportés par le vent. Faute d'arbres qui partout ailleurs les arrêtent et y pompent des substances nourricières. Sur plusieurs points semblables, planter ce serait évangéliser. Séparés de la grande ville la plus proche par une distance infranchissable pour des gens pauvres, et qui mettait un désert entre elle et eux, n'ayant aucun débouché pour leurs produits s'ils eussent produit quelque chose. Jetés auprès d'une forêt inexploitée qui leur donnait du bois et l'incertaine nourriture du braconnage, les habitants étaient talonnés par la faim pendant l'hiver. Les terres n'offrant pas le fonds nécessaire à la culture du blé, les malheureux n'avaient ni bestiaux ni ustensiles aratoires. Ils vivaient de châtaignes. Enfin, ceux qui, en embrassant dans un muséum l'ensemble des productions zoologiques, on subit l'indicible mélancolie que cause l'aspect des couleurs brunes qui marquent les produits de l'Europe, comprendront peut-être combien la vue de ces plaines grisâtres doit influer sur les dispositions morales par la désolante pensée de l'infécondité qu'elles présentent incessamment. Il n'y a là ni fraîcheur, ni ombrage, ni contraste, aucune des idées, aucun des spectacles qui réjouissent le cœur. On y embrasserait un méchant pommier rabougri comme un ami. Une route départementale récemment faite enfilait cette plaine à un point de bifurcation sur la grande route. Après quelques lieues se trouvait au pied d'une colline, comme son nom l'indiquait, Montaignac, chef-lieu d'un canton où commence un des arrondissements de la Haute-Vienne. La colline dépend de Montaignac, qui réunit dans sa circonscription la nature montagnarde et la nature des plaines. Cette commune est une petite Écosse, avec ses basses et ses hautes terres. Derrière la colline, au pied de laquelle gît le bourg, s'élève à 1 lieue environ le premier pic de la chaîne corrézienne. Dans cet espace s'étale la grande forêt dite de Montaignac, qui prend à la colline de Montaignac, la descend, remplit les vallons et les coteaux arides, pelés par grandes places, embrasse le pic et arrive jusqu'à la route d'Aubusson, par une langue dont la pointe meurt sur un escarpement de ce chemin. L'escarpement domine une gorge par où passe la grande route de Bordeaux à Lyon. Souvent, les voitures, les voyageurs, les piétons avaient été arrêtés au fond de cette gorge dangereuse par des voleurs, dont les coups de main demeuraient impunis. Le site les favorisait, ils gagnaient par des sentiers à eux connus les parties inaccessibles de la forêt. Un pareil pays offrait peu de prise aux investigations de la justice. Personne n'y passait. Sans circulation, il ne saurait exister ni commerce, ni industrie, ni échange d'idées, aucune espèce de richesse. Les merveilles physiques de la civilisation sont toujours le résultat d'idées primitives appliquées. La pensée est constamment le point de départ et le point d'arrivée de toute société. L'histoire de Montaignac est une preuve de cet axiome de science sociale. Quand l'administration put s'occuper des besoins urgents et matériels du pays, elle rasa cette langue de forêt, y mit un poste de gendarmerie qui accompagna la correspondance sur les deux relais. Mais à la honte de la gendarmerie, ce fut la parole et non le glaive, le curé Bonnet et non le brigadier Chervin qui gagna cette bataille civile en changeant le moral de la population. Ce curé, saisi pour ce pauvre pays d'une tendresse religieuse, tenta de le régénérer et parvint à son but. Après avoir voyagé durant une heure dans ces plaines, alternativement caillouteuses et poudreuses, où les perdrix allaient en paix par compagnie et faisaient entendre le bruit sourd et pesant de leurs ailes en s'envolant à l'approche de la voiture, l'abbé Gabriel, comme tous les voyageurs qui ont passé par là, vit poindre avec un certain plaisir les toits du bourg. À l'entrée de Montaignac est un de ces curieux relais de poste qui ne se voient qu'en France. Son indication consiste en une planche de chêne sur laquelle un prétentieux postillon a gravé ces mots « Poste aux chevaux, noircis à l'encre » et attaché par quatre clous au-dessus d'une misérable écurie, sans aucun cheval. La porte, presque toujours ouverte, a pour seuil une planche enfoncée sur champ, pour garantir des inondations pluviales sur le sol de l'écurie, plus bas que celui du chemin. Le désolé voyageur aperçoit des harnais blancs, usés, raccommodés, prêts de céder au premier effort des chevaux. Les chevaux sont au labour, au pré, toujours ailleurs que dans l'écurie. Si par hasard ils sont dans l'écurie, ils mangent. S'ils ont mangé, le postillon est chez sa tante ou chez sa cousine. Il rentre des foins où il dort. Personne ne sait où il est. Il faut attendre qu'on soit allé le chercher. Il ne vient qu'après avoir fini sa besogne. Quand il est arrivé, il passe un temps infini avant qu'il n'ait trouvé une veste, son fouet ou bricolé ses chevaux. Sur le pas de la maison, une bonne grosse femme s'impatiente plus que le voyageur, et pour l'empêcher d'éclater, se donne plus de mouvements que ne s'en donneront les chevaux. Elle vous représente la maîtresse de poste dont le mari est au champ. Le favori de Monseigneur laissa sa voiture devant une écurie de ce genre, dont les murs ressemblaient à une carte de géographie, et dont la toiture en chaume, fleurie comme un parterre, cédait sous le poids des joues-barbes. Après avoir prié la maîtresse de tout préparer pour son départ, qui aurait lieu dans une heure, il demanda le chemin du presbytère. La bonne femme lui montra entre deux maisons une ruelle qui menait à l'église. Le presbytère était auprès. Pendant que le jeune abbé montait ce sentier plein de pierres et encaissé par des haies, la maîtresse de poste questionnait le postillon. Depuis Limoges, chaque postillon arrivant avait dit à son confrère partant les conjectures de l'évêché promulguées par le postillon de la capitale. Ainsi, tandis qu'à Limoges les habitants se levaient en s'entretenant de l'exécution de l'assassin du père Pingret, sur toute la route, les gens de la campagne annonçaient la grâce de l'innocent obtenu par l'évêque, et jasaient sur les prétendues erreurs de la justice humaine. Quand plus tard Jean-François serait exécuté, peut-être devait-il être regardé comme un martyr. Après avoir fait quelques pas en gravissant ce sentier rougi par les feuilles d'automne, noir de murons et de prunelles, l'abbé Gabriel se retourna par le mouvement machinal qui nous porte tous à prendre connaissance des lieux où nous allons pour la première fois, espèce de curiosité physique innée que partagent les chevaux et les chiens. La situation de Montaignac lui fut expliquée par quelques sources qu'épanche la colline, et par une petite rivière le long de laquelle passe la route départementale, qui lie le chef-lieu de l'arrondissement à la préfecture. Comme tous les villages de ce plateau, Montaignac est bâti en terre séchée au soleil et façonné en carrés égaux. Après un incendie, une habitation peut se trouver construite en briques. Les toits sont en chaume. Tout y annonçait alors l'indigence. En avant de Montaignac s'étendaient plusieurs champs de seigle, de raves et de pommes de terre, conquis sur la plaine. Au penchant de la colline, il vit quelques prairies à irrigation où l'on élève ses célèbres chevaux limousins, qui furent, dit-on, un legs des Arabes, quand ils descendirent des Pyrénées en France, pour expirer entre Poitiers et Tours sous la hache des Francs que commandait Charles Martel. L'aspect des hauteurs avait de la sécheresse. Des places brûlées, rougeâtres, ardentes, indiquaient la terre aride où se plaît le châtaignier. Les eaux soigneusement appliquées aux irrigations ne vivifiaient que les prairies bordées de châtaigniers, entourées de haies où croissait cette herbe fine, courte et quasi sucrée qui produit cette race de chevaux fiers et délicats, sans grande résistance à la fatigue, mais brillants, excellents aux lieux où ils naissent, et sujets à changer par leur transplantation. Quelques mûriers récemment apportés indiquaient l'intention de cultiver la soie. Comme la plupart des villages du monde, Montaignac n'avait qu'une seule rue par où passait la route. Mais il y avait un haut et un bas à Montaignac, divisés chacun par des ruelles tombant à angle droit sur la rue. Une rangée de maisons, assises sur la croupe de la colline, présentait le gai spectacle de jardins étagés. Leur entrée sur la rue nécessitait plusieurs degrés. Les unes avaient leurs escaliers en terre, d'autres en cailloux, et de ci de là quelques vieilles femmes, assises, filant ou gardant les enfants, animaient la scène, entretenaient la conversation entre le haut et le bas Montaignac, en se parlant à travers la rue, ordinairement paisible, et se renvoyaient assez rapidement les nouvelles d'un bout à l'autre du bourg. Les jardins, pleins d'arbres fruitiers, de choux, d'oignons, de légumes, avaient tous des ruches le long de leurs terrasses. Puis une autre rangée de maisons à jardins inclinés sur la rivière, dont le cours était marqué par de magnifiques chènevières et par ceux d'entre les arbres fruitiers qui aiment les terres humides, s'étendaient parallèlement. Quelques-unes, comme celle de la poste, se trouvaient dans un creux et favorisaient ainsi l'industrie de quelques tisserands. Presque toutes étaient ombragées par des noyers, l'arbre des terres fortes. De ce côté, dans le bout opposé à celui de la grande plaine, était une habitation plus vaste et plus soignée que les autres, autour de laquelle se groupaient d'autres maisons également bien tenues. Ce hameau, séparé du bourg par ses jardins, s'appelait déjà l'Étacheron, nom qu'il conserve aujourd'hui. La commune était peu de chose par elle-même, mais il en dépendait une trentaine de métairies éparses. Dans la vallée, vers la rivière, quelques traînes, semblables à celles de la Marche et du Berry, indiquaient les cours d'eau, dessinaient leurs franges vertes autour de cette commune, jetées là comme un vaisseau en pleine mer. Quand une maison, une terre, un village, un pays ont passé d'un état déplorable à un état satisfaisant, sans être encore ni splendide, ni même riche, la vie semble si naturelle aux êtres vivants qu'au premier abord, le spectateur ne peut jamais deviner les efforts immenses, infinis de petitesse, grandioses de persistance, le travail enterré dans les fondations, les labours oubliés sur lesquels reposent les premiers changements. Aussi ce spectacle ne parut-il pas extraordinaire au jeune abbé, quand il embrassa d'un coup d'œil ce gracieux paysage. Il ignorait l'état de ce pays avant l'arrivée du curé Bonnet. Il fit quelques pas de plus en montant le sentier, et revit bientôt, à une centaine de toises au-dessus des jardins dépendants des maisons du haut Montaignac, l'église et le presbytère, qu'il avait aperçus les premiers de loin, confusément mêlés aux ruines imposantes, et enveloppés par des plantes grimpantes du vieux castel de Montaignac, une des résidences de la maison de Navarin au XIIe siècle. Le presbytère, maison sans doute primitivement bâtie pour un garde principal ou pour un intendant, s'annonçait par une longue et haute terrasse plantée de tilleuls, d'où la vue planait sur le pays. L'escalier de cette terrasse et les murs qui la soutenaient étaient d'une ancienneté constatée par les ravages du temps. Les pierres de l'escalier, déplacées par la force imperceptible mais continue de la végétation, laissaient placer de hautes herbes et des plantes sauvages. La mousse plate qui s'attache aux pierres avait appliqué son tapis vert dragon sur la hauteur de chaque marche. Les nombreuses familles des pariétaires, la camomille et les cheveux de Vénus, sortaient par touffes abondantes et variées entre les barbacanes de la muraille, les ardées malgré son épaisseur. La botanique y avait jeté la plus élégante tapisserie de fougères découpées, de gueules de loup violacées à pistils d'or, de vipérines bleues, de cryptogames bruns, si bien que la pierre semblait être un accessoire, et trouait cette fraîche tapisserie à de rares intervalles. Sur cette terrasse, le buis dessinait les figures géométriques d'un jardin d'agrément, encadré par la maison du curé, au-dessus de laquelle le roc formait une marge blanchâtre ornée d'arbres souffrants, épanchée comme un plumage. Les ruines du château dominaient et cette maison et l'église. Ce presbytère, construit en cailloux et en mortier, avait un étage surmonté d'un énorme toit en pente à deux pignons, sous lequel s'étendaient des greniers sans doute vides, vu le délabrement des lucarnes. Le rez-de-chaussée se composait de deux chambres séparées par un corridor, au fond duquel était un escalier de bois par lequel on montait au premier étage, également composé de deux chambres. Une petite cuisine était adossée à ce bâtiment du côté de la cour, où se voyaient une écurie et une étable parfaitement désertes, inutiles, abandonnées. Le jardin potager séparait la maison de l'église. Une galerie en ruine allait du presbytère à la sacristie. Quand le jeune abbé vit les quatre croisées à vitrages en plomb, les murs bruns et moussus, la porte de ce presbytère en bois brut fendillée comme un paquet d'allumettes, loin d'être saisi par l'adorable naïveté de ces détails, par la grâce des végétations qui garnissaient les toits, les appuis en bois pourri des fenêtres, et les lézardes d'où s'échappaient de folles plantes grimpantes, par les cordons de vigne dont les pampres vrillés et les grappillons entraient par les fenêtres comme pour y apporter de riantes idées, il se trouva très heureux d'être évêque en perspective, plutôt que curé de village. Cette maison, toujours ouverte, semblait appartenir à tous. L'abbé Gabriel entra dans la salle qui communiquait avec la cuisine, et y vit un pauvre mobilier. Une table à quatre colonnes torses en vieux chêne, un fauteuil en tapisserie, des chaises tout en bois, un vieux bahut pour buffet. Personne dans la cuisine, excepté un chat qui révélait une femme au logis. L'autre pièce servait de salon. En y jetant un coup d'œil, le jeune prêtre aperçut des fauteuils en bois naturel et couverts en tapisserie. La boiserie et les solives du plafond étaient en châtaignier et d'un noir d'ébène. Il y avait une horloge dans une caisse verte à fleurs peintes, une table ornée d'un tapis vert usé, quelques chaises, et sur la cheminée, deux flambeaux entre lesquels était un enfant Jésus en cire, sous sa cage de verre. La cheminée, revêtue de bois à moulure grossière, était cachée par un devant en papier, dont le sujet représentait le bon pasteur avec sa brebis sur l'épaule. Sans doute le cadeau par lequel la fille du maire ou du juge de paix avait voulu reconnaître les soins donnés à son éducation. Le piteux état de la maison faisait peine à voir. Les murs, jadis blanchis à la chaux, étaient décolorés par places, teints à hauteur d'homme par des frottements. L'escalier à gros balustres et à marches en bois, quoique proprement tenu, paraissait devoir trembler sous le pied. Au fond, en face de la porte d'entrée, une autre porte ouverte donnant sur le jardin potager permit à l'abbé de Rastignac de mesurer le peu de largeur de ce jardin, encaissé comme par un mur de fortification taillé dans la pierre blanchâtre et friable de la montagne, que tapissaient de riches espaliers, de longues treilles mal entretenues, et dont toutes les feuilles étaient dévorées de lèpre. Il revint sur ses pas, se promena dans les allées du premier jardin, d'où se découvrit à ses yeux, par-dessus le village, le magnifique spectacle de la vallée, véritable oasis située au bord des vastes plaines, qui, voilée par les légères brumes du matin, ressemblait à une mer calme. En arrière, on apercevait d'un côté les vastes repoussoirs de la forêt bronzée, et de l'autre l'église, les ruines du château perché sur le roc, mais qui se détachait vivement sur le bleu de l'éther. En faisant crier sous ses pas le sable des petites allées en étoiles, en rond, en losange, l'abbé Gabriel regarda tour à tour le village, où les habitants réunis par groupes l'examinaient déjà, puis cette vallée fraîche avec ses chemins épineux, sa rivière bordée de saules si bien opposée à l'infini des plaines. Il fut alors saisi par des sensations qui changèrent la nature de ses idées. Il admira le calme de ces lieux. Il fut soumis à l'influence de cet air pur, à la paix inspirée par la révélation d'une vie ramenée vers la simplicité biblique. Il entrevit confusément les beautés de cette cure, où il rentra pour en examiner les détails avec une curiosité sérieuse. Une petite fille, sans doute chargée de garder la maison, mais occupée à picorer dans le jardin, entendit sur les grands carreaux qui dallaient les deux salles basses les pas d'un homme chaussé de souliers craquants. Elle vint, étonnée d'être surprise un fruit à la main, un autre entre les dents. Elle ne répondit rien aux questions de ce beau, jeune, mignon abbé. La petite n'avait jamais cru qu'il pût exister un abbé semblable, éclatant de linge en batiste, tiré à quatre épingles, vêtu de beaux draps noirs, sans une tache ni un pli. « Monsieur Bonnet, » dit-elle enfin, « Monsieur Bonnet dit la messe, et mademoiselle Ursule est à l'église. » L'abbé Gabriel n'avait pas vu la galerie par laquelle le presbytère communiquait à l'église. Il regagna le sentier pour y entrer par la porte principale. Cette espèce de porche en auvent regardait le village. On y parvenait par des degrés en pierres disjointes et usées, qui dominaient une place ravinée par les eaux, et ornée par ces gros ormes dont la plantation fut ordonnée par le protestant Sully. Cette église, une des plus pauvres églises de France où il y en a de bien pauvres, ressemblait à ces énormes granges qui ont au-dessus de leurs portes un toit avancé soutenu par des piliers de bois ou de briques. Bâtis en cailloux et en mortier comme la maison du curé, flanquée d'un clocher carré sans flèche et couverte en grosses tuiles rondes, cette église avait pour ornements extérieurs les plus riches créations de la sculpture, mais enrichie de lumière et d'ombre, fouillées, massées et colorées par la nature, qui s'y entend aussi bien que Michel-Ange. Des deux côtés, le lierre embrassait les murailles de ses tiges nerveuses, en dessinant à travers son feuillage autant de veines qu'il s'en trouve sur un écorché. Ce manteau, jeté par le temps pour couvrir les blessures qu'il avait faites, était diapré par les fleurs d'automne nées dans les crevasses, et donnait asile à des oiseaux qui chantaient. La fenêtre en rosace au-dessus de l'auvent du porche était enveloppée de campanules bleues, comme la première page d'un missel richement peint. Le flanc qui communiquait avec la cure à l'exposition du nord était moins fleuri. La muraille s'y voyait grise et rouge par grandes places où s'étalaient des mousses. Mais l'autre flanc et le chevet, entourés par le cimetière, offraient des floraisons abondantes et variées. Quelques arbres, entre autres un amandier, un des emblèmes de l'espérance, s'étaient logés dans les lézardes. Deux pins gigantesques adossés au chevet servaient de paratonnerre. Le cimetière, bordé d'un petit mur en ruine, que ses propres décombres maintenaient à hauteur d'appui, avait pour ornement une croix en fer montée sur un socle, garnie de buis bénite à Pâques par une de ces touchantes pensées chrétiennes oubliées dans les villes. Le curé de village est le seul prêtre qui vienne dire à ses morts, au jour de la résurrection pascale, « Vous revivrez heureux ». Çà et là, quelques croix pourries jalonnaient les éminences couvertes d'herbes. L'intérieur s'harmoniait parfaitement au négligé poétique de cet humble extérieur, dont le luxe était fourni par le temps, charitable une fois. Au dedans, l'œil s'attachait d'abord à la toiture, intérieurement doublée en châtaignier, auquel l'âge avait donné les plus riches tons des vieux bois de l'Europe, et que soutenaient à des distances égales de nerveux supports appuyés sur des poutres transversales. Les quatre murs blanchis à la chaux n'avaient aucun ornement. La misère rendait cette paroisse iconoclaste sans le savoir. L'église, carrelée et garnie de bancs, était éclairée par quatre croisées latérales en ogive, à vitrages en plomb. L'autel en forme de tombeau avait pour ornement un grand crucifix au-dessus d'un tabernacle en noyer, décoré de quelques moulures propres et luisantes. Huit flambeaux à cierges économiques en bois peint en blanc, puis deux vases en porcelaine pleins de fleurs artificielles, que le portier d'un agent de change aurait rebuté et desquels Dieu se contentait. La lampe du sanctuaire était une veilleuse, placée dans un ancien bénitier portatif en cuivre argenté, suspendu par des cordes en soie qui venaient de quelque château démoli. Les fonds baptismaux étaient en bois comme la chaire, et comme une espèce de cage pour les marguilliers, les patriciens du bourg. Un autel de la Vierge offrait à l'admiration du public deux lithographies coloriées, encadrées dans un petit cadre doré. Il était peint en blanc, décoré de fleurs artificielles, planté dans des vases tournés en bois doré, et recouvert par une nappe festonnée de méchantes dentelles rousses. Au fond de l'église, une longue croisée, voilée par un grand rideau en calicot rouge, produisait un effet magique. Ce riche manteau de pourpre jetait une teinte rose sur les murs blanchis à la chaux. Il semblait qu'une pensée divine rayonnât de l'autel et embrassa cette pauvre nef pour la réchauffer. Le couloir qui conduisait à la sacristie offrait sur une de ses parois le patron du village, un grand saint Jean-Baptiste avec son mouton, sculptés en bois et horriblement peints. Malgré tant de pauvreté, cette église ne manquait pas des douces harmonies qui plaisent aux belles âmes et que les couleurs mettent si bien en relief. Les riches teintes brunes du bois relevaient admirablement le blanc pur des murailles et se mariaient sans discordance à la pourpre triomphale, jetée sur le chevet. Cette sévère trinité de couleurs rappelait la grande pensée catholique. À l'aspect de cette chétive maison de Dieu, si le premier sentiment était la surprise, il était suivi d'une admiration mêlée de pitié. N'exprimait-elle pas la misère du pays? Ne s'accordait-elle pas à la simplicité naïve du presbytère? Elle était d'ailleurs propre et bien tenue. On y respirait comme un parfum de vertu champêtre. Rien n'y trahissait l'abandon. Quoique rustique et simple, elle était habitée par la prière. Elle avait une âme, on le sentait sans s'expliquer comment. L'abbé Gabriel se glissa doucement pour ne point troubler le recueillement de deux groupes, placés en haut des bancs auprès du maître-autel, qui était séparé de la nef à l'endroit où pendait la lampe, par une balustrade assez grossière, toujours en bois de châtaignier, et garnie de la nappe destinée à la communion. De chaque côté de la nef, une vingtaine de paysans et de paysannes, plongés dans la prière la plus fervente, ne firent aucune attention à l'étranger quand il monta le chemin étroit qui divisait les deux rangées de bancs. Arrivé sous la lampe, endroit d'où il pouvait voir les deux petites nefs qui figuraient la croix et dont l'une conduisait à la sacristie, l'autre au cimetière, l'abbé Gabriel aperçut du côté du cimetière une famille vêtue de noir et agenouillée sur le carreau. Ces deux parties de l'église n'avaient pas de banc. Le jeune abbé se prosterna sur la marche de la balustrade qui séparait le chœur de la nef et se mit à prier en examinant par un regard oblique ce spectacle qui lui fut bientôt expliqué. L'évangile était dit. Le curé quitta sa chasuble et descendit de l'autel pour venir à la balustrade. Le jeune abbé qui prévit ce mouvement s'adossa au mur avant que M. Bonnet ne pût le voir. 10 heures sonnaient. « Mes frères, dit le curé d'une voix émue, en ce moment même, Un enfant de cette paroisse va payer sa dette à la justice humaine en subissant le dernier supplice. Nous offrons le saint sacrifice de la messe pour le repos de son âme. Unissons nos prières afin d'obtenir de Dieu qu'il n'abandonne pas cet enfant dans ses derniers moments et que son repentir lui mérite dans le ciel la grâce qui lui a été refusée ici-bas. La perte de ce malheureux, un de ceux sur lesquels nous avions le plus compté pour donner de bons exemples, ne peut être attribuée qu'à la méconnaissance des principes religieux. Le curé fut interrompu par des sanglots qui partaient du groupe formé par la famille en deuil, et dans lequel le jeune prêtre, à ce surcroît d'affliction, reconnut la famille Tacheron, sans l'avoir jamais vue. D'abord étaient collés contre la muraille deux vieillards, au moins septuagénaires, deux figures arides profondes et immobiles, bistrées comme un bronze florentin. Ces deux personnages, stoïquement debout, comme des statues dans leurs vieux vêtements rapetassés, devaient être le grand-père et la grand-mère du condamné. Leurs yeux rougis et vitreux semblaient pleurer du sang. Leurs bras tremblaient tant que les bâtons sur lesquels ils s'appuyaient rendaient un léger bruit sur le carreau. Après eux, le père et la mère, le visage caché dans leurs mouchoirs, fondaient en larmes. Autour de ces quatre chefs de la famille se tenaient à genoux deux sœurs mariées accompagnées de leurs maris, puis trois fils stupides de douleur. Cinq petits-enfants agenouillés, dont le plus âgé n'avait que 7 ans, ne comprenaient sans doute point ce dont il s'agissait. Ils regardaient, ils écoutaient, avec la curiosité torpide, en apparence, qui distingue le paysan, mais qui est l'observation des choses physiques poussées au plus haut degré. Enfin, la pauvre fille, emprisonnée par un désir de la justice, la dernière venue, cette Denise, martyr de son amour fraternel, écoutait d'un air qui tenait à la fois de l'égarement et de l'incrédulité. Pour elle, son frère ne pouvait pas mourir. Elle représentait admirablement celle des trois maris qui ne croyaient pas à la mort du Christ, tout en partageant l'agonie. Pâle, les yeux secs comme le sont ceux des personnes qui ont beaucoup veillé, sa fraîcheur était déjà flétrie moins par les travaux champêtres que par le chagrin. Mais elle avait encore la beauté des filles de la campagne, des formes pleines et rebondies, de beaux bras rouges, une figure toute ronde, des yeux purs, allumés en ce moment par l'éclair du désespoir. Sous le cou, à plusieurs places, une chair ferme et blanche que le soleil n'avait pas brunie annonçait une riche carnation, une blancheur cachée. Les deux filles mariées pleuraient. Leur mari, cultivateur patient, était grave. Les trois autres garçons, profondément tristes, tenaient leurs yeux abaissés vers la terre. Dans ce tableau horrible de résignation et de douleur sans espoir, Denise et sa mère offraient seules une teinte de révolte. Les autres habitants s'associaient à l'affliction de cette famille respectable, par une sincère et pieuse commisération qui donnait à tous les visages la même expression, et qui monta jusqu'à l'effroi quand les quelques phrases du curé firent comprendre qu'en ce moment, le couteau tombait sur la tête de ce jeune homme que tous connaissaient, avaient vu naître, avaient jugé sans doute incapable de commettre un crime. Les sanglots qui interrompirent la simple et courte allocution que le prêtre devait faire à ses ouailles le troublèrent à un point qu'il la cessa promptement, en les invitant à prier avec ferveur. Quoique ce spectacle ne fût pas de nature à surprendre un prêtre, Gabriel de Rastignac était trop jeune pour ne pas être profondément touché. Il n'avait pas encore exercé les vertus du prêtre. Il se savait appelé à d'autres destinées. Il n'avait pas à aller sur toutes les brèches sociales où le cœur saigne à la vue des maux qui les encombrent. Sa mission était celle du haut clergé qui maintient l'esprit de sacrifice, représente l'intelligence élevée de l'Église, et dans les occasions d'éclat, déploie ses mêmes vertus sur de plus grands théâtres, comme les illustres évêques de Marseille et de Meaux, comme les archevêques d'Arles et de Cambrai. Cette petite assemblée de gens de la campagne pleurant et priant pour celui qu'ils supposaient supplicier dans une grande place publique, devant des milliers de gens venus de toutes parts, pour agrandir encore le supplice par une honte immense. Ce faible contrepoids de sympathies et de prières, opposé à cette multitude de curiosités féroces et de justes malédictions, était de nature à émouvoir, surtout dans cette pauvre église. L'abbé Gabriel fut tenté d'aller dire au tâcheron « Votre fils, votre frère a obtenu un sursis ». Mais il eut peur de troubler la messe. Il savait d'ailleurs que ce sursis n'empêcherait pas l'exécution. Au lieu de suivre l'office, il fut irrésistiblement entraîné à observer le pasteur, de qui l'on attendait le miracle de la conversion du criminel. Sur l'échantillon du presbytère, Gabriel de Rastignac s'était fait un portrait imaginaire de M. Bonnet, un homme gros et court à figure forte et rouge, un rude travailleur à demi-paysan, hâlé par le soleil. Loin de là, l'abbé rencontra son égal. De petite taille et débile en apparence, M. Bonnet frappait tout d'abord par le visage passionné qu'on suppose à l'apôtre, une figure presque triangulaire, commencée par un large front sillonné de plis, achevée des tempes à la pointe du menton par deux lignes maigres que dessinaient ses joues creuses. Dans cette figure endolorie par un teint jaune comme la cire d'un cierge, éclataient deux yeux d'un bleu lumineux de foi, brûlant d'espérance vive. Elle était également partagée par un nez long, mince et droit, à narines bien coupées, sous lequel parlait toujours, même fermée, une bouche à larges lèvres prononcées, et d'où il sortait une de ces voix qui vont au cœur. La chevelure châtaine, rare, fine et lisse sur la tête, annonçait un tempérament pauvre, soutenu seulement par un régime sobre. La volonté faisait toute la force de cet homme. Telles étaient ses distinctions. Ses mains courtes eussent indiqué chez tout autre une pente vers de grossiers plaisirs, et peut-être avait-il, comme Socrate, vaincu ses mauvais penchants. Sa maigreur était disgracieuse. Ses épaules se voyaient trop. Ses genoux semblaient cagneux. Le buste, trop développé relativement aux extrémités, lui donnait l'air d'un bossu sans bosse. En somme, il devait déplaire. Les gens à qui les miracles de la pensée, de la foi, de l'art sont connus, pouvaient seuls adorer ce regard enflammé du martyr, cette pâleur de la constance et cette voix de l'amour qui distinguait le curé Bonnet. Cet homme, digne de la primitive église, qui n'existe plus que dans les tableaux du XVIe siècle et dans les pages du martyrologue, était marqué du sceau des grandeurs humaines qui approche le plus des grandeurs divines, par la conviction dont le relief indéfinissable embellit les figures les plus vulgaires. D'or d'une teinte chaude le visage des hommes voués à un culte quelconque, comme il relève d'une sorte de lumière la figure de la femme glorieuse de quelque bel amour. La conviction et la volonté humaine arrivaient à sa plus grande puissance. Tout à la fois effet et cause, elle impressionne les âmes les plus froides. Elle est une sorte d'éloquence muette qui saisit les masses. En descendant de l'autel, le curé rencontra le regard de l'abbé Gabriel. Il le reconnut, et quand le secrétaire de l'évêché se présenta dans la sacristie, Ursule, à laquelle son maître avait déjà donné ses ordres, y était seule, et invita le jeune abbé à la suivre. « Monsieur, dit Ursule, femme d'un âge canonique, en emmenant l'abbé de Rastignac par la galerie dans le jardin, monsieur le curé m'a dit de vous demander si vous aviez déjeuné. Vous avez dû partir de grand matin de Limoges pour être ici à 10 heures. Je vais donc tout préparer pour le déjeuner. Monsieur l'abbé ne trouvera pas ici la table de monseigneur, mais nous ferons de notre mieux. Monsieur Bonnet ne tardera pas à revenir, il est allé consoler ces pauvres gens, les tâcherons. Voici la journée où leur fils éprouve un bien terrible accident. Mais, dit enfin l'abbé Gabriel, où est la maison de ces braves gens? Je dois emmener Monsieur Bonnet à l'instant à Limoges, d'après l'ordre de Monseigneur. Ce malheureux ne sera pas exécuté aujourd'hui, Monseigneur a obtenu un sursis. Ah, dit Ursule à qui la langue démangeait d'avoir à répandre cette nouvelle, monsieur a bien le temps d'aller leur porter cette consolation pendant que je vais apprêter le déjeuner. La maison au tâcheron est au bout du village. Suivez le sentier qui passe au bas de la terrasse, il vous y conduira. Quand Ursule eut perdu de vue l'abbé Gabriel, elle descendit pour semer cette nouvelle dans le village, en y allant chercher les choses nécessaires au déjeuner. Le curé avait brusquement appris à l'église une résolution désespérée inspirée au tâcheron par le rejet du pourvoi en cassation. Ces braves gens quittaient le pays et devaient, dans cette matinée, recevoir le prix de leurs biens vendus à l'avance. La vente avait exigé des délais et des formalités imprévues par eux. Forcés de rester dans le pays depuis la condamnation de Jean-François, chaque jour avait été pour eux un calice d'amertume à boire. Ce projet, accompli si mystérieusement, ne transpira que la veille du jour où l'exécution devait avoir lieu. Les tâcherons crurent pouvoir quitter le pays avant cette fatale journée. Mais l'acquéreur de leurs biens était un homme étranger au canton, un Corrézien à qui leur motif était indifférent, et qui d'ailleurs avait éprouvé des retards dans la rentrée de ses fonds. Ainsi la famille était obligée de subir son malheur jusqu'au bout. Le sentiment qui dictait cette expatriation était si violent dans ces âmes simples, peu habituées à des transactions avec la conscience, que le grand-père et la grand-mère, les filles et leurs maris, le père et la mère, tous qui portaient le nom de tâcheron ou leur étaient alliés de près, quittaient le pays. Cette émigration peinait toute la commune. Le maire était venu prier le curé d'essayer de retenir ces braves gens. Selon la loi nouvelle, le père n'est plus responsable du fils, et le crime du père n'entache plus sa famille. En harmonie avec les différentes émancipations qui ont tant affaibli la puissance paternelle, ce système a fait triompher l'individualisme qui dévore la société moderne. Aussi le penseur aux choses d'avenir voit-il l'esprit de famille détruit, là où les rédacteurs du nouveau code ont mis le libre arbitre et l'égalité. La famille sera toujours la base des sociétés. Nécessairement temporaire, incessamment divisée, recomposée pour se dissoudre encore, sans lien entre l'avenir et le passé, la famille d'autrefois n'existe plus en France. Ceux qui ont procédé à la démolition de l'ancien édifice ont été logiques en partageant également les biens de la famille, en amoindrissant l'autorité du père, en faisant de tout enfant le chef d'une nouvelle famille, en supprimant les grandes responsabilités. Mais l'État social reconstruit est-il aussi solide avec ces jeunes lois, encore sans longues épreuves, que la monarchie l'était malgré ses anciens abus? En perdant la solidarité des familles, la société a perdu cette force fondamentale que Montesquieu avait découverte et nommée l'honneur. Elle a tout isolé pour mieux dominer, elle a tout partagé pour affaiblir. Elle règne sur des unités, sur des chiffres agglomérés comme des grains de blé dans un tas. Les intérêts généraux peuvent-ils remplacer les familles? Le temps a le mot de cette grande question. Néanmoins, la vieille loi subsiste. Elle a poussé des racines si profondes que vous en retrouvez de vivaces dans les régions populaires. Il est encore des coins de province où ce qu'on nomme le préjugé subsiste, où la famille souffre d'un crime d'un de ses enfants ou d'un de ses pères. Cette croyance rendait le pays inhabitable aux tâcherons. Leur profonde religion les avait amenés à l'église le matin. Était-il possible de laisser dire, sans y participer, la messe offerte à Dieu pour lui demander d'inspirer à leur fils un repentir qui le rendit à la vie éternelle? Et d'ailleurs, ne devaient-ils pas faire leurs adieux à l'autel de leur village? Mais le projet était consommé. Quand le curé qui les suivit entra dans leur principale maison, il trouva les sacs préparés pour le voyage. L'acquéreur attendait ses vendeurs avec leur argent. Le notaire achevait de dresser les quittances. Dans la cour, derrière la maison, une carriole attelée devait emmener les vieillards avec l'argent et la mère de Jean-François. Le reste de la famille comptait partir à pied, nuitamment. Au moment où le jeune abbé entra dans la salle basse où se trouvaient réunis tous ces personnages, le curé de Montaignac avait épuisé les ressources de son éloquence. Les deux vieillards, insensibles à force de douleur, étaient accroupis dans un coin sur leur sac en regardant leur vieille maison héréditaire, ses meubles et l'acquéreur, et se regardant tour à tour comme pour se dire « Avons-nous jamais cru que pareil événement pût arriver ?» Ces vieillards, qui depuis longtemps avaient résigné leur autorité à leur fils, le père du criminel, étaient, comme de vieux rois après leur abdication, redescendus au rôle passif des sujets et des enfants. Tâcheron était debout. Il écoutait le pasteur auquel il répondait à voix basse par des monosyllabes. Cet homme, âgé d'environ 48 ans, avait cette belle figure que Titien a trouvée pour tous ses apôtres. Une figure de foi, de probité sérieuse et réfléchie, un profil sévère, un nez coupé en angle droit, des yeux bleus, un front noble, des traits réguliers, des cheveux noirs et crépus, résistants, plantés avec cette symétrie qui donne du charme à ces figures brunies par les travaux en plein air. Il était facile de voir que les raisonnements du curé se brisaient devant une inflexible volonté. Denise était appuyée contre la huche au pain, regardant le notaire qui se servait de ce meuble comme d'une table à écrire, et à qui l'on avait donné le fauteuil de la grand-mère. L'acquéreur était assis sur une chaise à côté du tabellion. Les deux sœurs mariées mettaient la nappe sur la table et servaient le dernier repas que les ancêtres allaient offrir et faire dans leur maison, dans leur pays, avant d'aller sous des cieux inconnus. Les hommes étaient à demi assis sur un grand lit de serge verte. La mère, occupée à la cheminée, y battait une omelette. Des petits enfants encombraient la porte devant laquelle était la famille de l'acquéreur. La vieille salle enfumée à solives noires, et par la fenêtre de laquelle se voyait un jardin bien cultivé dont tous les arbres avaient été plantés par ces deux septuagénaires, était en harmonie avec leur douleur concentrée, qui se lisait en tant d'expressions différentes sur ces visages. Le repas était surtout apprêté pour le notaire, pour l'acquéreur, pour les enfants et les hommes. Le père et la mère, Denise et ses sœurs, avaient le cœur trop serré pour satisfaire leur faim. Il y avait une haute et cruelle résignation dans ces derniers devoirs de l'hospitalité champêtre accomplie. Les tâcherons, ces hommes antiques, finissaient comme on commence, en faisant les honneurs du logis. Ce tableau, sans emphase et néanmoins plein de solennité, frappa les regards du secrétaire de l'évêché, quand il vint apprendre au curé de Montaignac les intentions du prélat. « Le fils de ce brave homme vit encore, » dit Gabriel au curé. À cette parole, comprise par tous au milieu du silence, les deux vieillards se dressèrent sur leurs pieds comme si la trompette du jugement dernier eût sonné. La mère laissa tomber sa poêle dans le feu. Denise jeta un cri de joie. Tous les autres demeurèrent dans une stupéfaction qui les pétrifia. « Jean-François a sa grâce !» cria tout à coup le village entier qui se rua vers la maison des tâcherons. « C'est Monseigneur l'évêque qui... » « Je savais bien qu'il était innocent, » dit la mère. « Cela n'empêche pas l'affaire, » dit l'acquéreur au notaire qui lui répondit par un signe satisfaisant. L'abbé Gabriel devint en un moment le point de mire de tous les regards. Sa tristesse fit soupçonner une erreur, et pour ne pas la dissiper lui-même, il sortit suivi du curé, se plaça en dehors de la maison pour renvoyer la foule, en disant aux premiers qui l'environnèrent que l'exécution n'était que remise. Le tumulte fut donc aussitôt remplacé par un horrible silence. Au moment où l'abbé Gabriel et le curé revinrent, ils virent sur tous les visages l'expression d'une horrible douleur. Le silence du village avait été deviné. « Mes amis, Jean-François n'a pas obtenu sa grâce, » dit le jeune abbé voyant que le coup était porté. « Mais l'état de son âme a tellement inquiété Monseigneur qu'il a fait retarder le dernier jour de votre fils pour au moins le sauver dans l'éternité. « Il vit donc !» s'écria Denise. Le jeune abbé prit à part le curé pour lui expliquer la situation périlleuse où l'impiété de son paroissien mettait la religion et ce que l'évêque attendait de lui. « Monseigneur exige ma mort, » répondit le curé. « J'ai déjà refusé à cette famille affligée d'aller assister ce malheureux enfant. Cette conférence et le spectacle qui m'attendraient me briseraient comme un verre. À chacun son œuvre. La faiblesse de mes organes, ou plutôt la trop grande mobilité de mon organisation nerveuse, m'interdit d'exercer ces fonctions de notre ministère. Je suis resté simple curé de village pour être utile à mes semblables, dans la sphère où je puis accomplir une vie chrétienne. Je me suis bien consulté pour satisfaire et cette vertueuse famille et mes devoirs de pasteur envers ce pauvre enfant. Mais à la seule pensée de monter avec lui sur la charrette des criminels, à la seule idée d'assister aux fatales apprêts, je sens un frisson de mort dans mes veines. On ne saurait exiger cela d'une mère. Et pensez, monsieur, qu'il est né dans le sein de ma pauvre église. Ainsi, dit l'abbé Gabriel, vous refusez d'obéir à Monseigneur? Monseigneur ignore l'état de ma santé. Il ne sait pas que chez moi la nature s'oppose, dit monsieur Bonnet en regardant le jeune abbé. Il y a des moments où, comme Belzins à Marseille, nous devons affronter des morts certaines, lui répliqua l'abbé Gabriel en l'interrompant. En ce moment, le curé sentit sa soutane tirée par une main. Il entendit des pleurs, se retourna, et vit toute la famille agenouillée. Vieux et jeunes, petits et grands, hommes et femmes, tous tendaient des mains suppliantes. Il y eut un seul cri quand il leur montra sa face ardente. « Sauvez au moins son âme !» La vieille grand-mère avait tiré le bas de la soutane et l'avait mouillée de ses larmes. « J'obéirai, monsieur. » Cette parole dite, le curé fut forcé de s'asseoir, tant il tremblait sur ses jambes. Le jeune secrétaire expliqua dans quel état de frénésie était Jean-François. « Croyez-vous, dit l'abbé Gabriel en terminant, que la vue de sa jeune sœur puisse le faire chanceler ?»« Oui, certes, répondit le curé. Denise, vous nous accompagnerez. »« Et moi aussi, dit la mère. » »« Non, s'écria le père. » Cet enfant n'existe plus, vous le savez. Aucun de nous ne le verra. Ne vous opposez pas à son salut, dit le jeune abbé. Vous seriez responsable de son âme en nous refusant les moyens de l'attendrir. En ce moment, sa mort peut devenir encore plus préjudiciable que ne l'a été sa vie. Elle ira, dit le père. Ce sera sa punition pour s'être opposé à toutes les corrections que je voulais infliger à son garçon. L'abbé Gabriel et M. Bonnet revinrent au presbytère, où Denise et sa mère furent invitées à se trouver, au moment du départ des deux ecclésiastiques pour Limoges. En cheminant le long de ce sentier qui suivait les contours du haut Montaignac, le jeune homme put examiner, moins superficiellement qu'à l'église, le curé, si fort vanté par le vicaire général. Il fut influencé promptement en sa faveur par des manières simples et pleines de dignité, par cette voix pleine de magie, par des paroles en harmonie avec la voix. Le curé n'était allé qu'une seule fois à l'évêché, depuis que le prélat avait pris Gabriel de Rastignac pour secrétaire. À peine avait-il entrevu ce favori destiné à l'épiscopat, mais il savait quelle était son influence. Néanmoins, il se conduisit avec une aménité digne, où se trahissait l'indépendance souveraine que l'Église accorde aux curés dans leur paroisse. Les sentiments du jeune abbé, loin d'animer sa figure, y imprimèrent un air sévère. Elle demeura plus que froide, elle glaçait. Un homme capable de changer le moral d'une population devait être doué d'un esprit d'observation quelconque, être plus ou moins physionomiste. Mais quand le curé n'eut possédé que la science du bien, il venait de prouver une sensibilité rare. Il fut donc frappé de la froideur par laquelle le secrétaire de l'évêque accueillait ses avances et ses aménités. Forcé d'attribuer ce dédain à quelque mécontentement secret, il cherchait en lui-même comment il avait pu le blesser, en quoi sa conduite était reprochable aux yeux de ses supérieurs.